Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des films de la Gorgone. Sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, vous pouvez également télécharger nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne. Culture Prohibée, c'est aussi un blog, culture-prohibée.blogspot.com.
J'ai été animateur culturel en milieu lycéen, j'ai été graphiste, plombier, enfin bon, un peu n'importe quoi. Mais j'ai quand même passé plus de 15 ans, presque 20 ans dans l'éducation nationale. Et je me suis... Mon premier bouquin, j'avais 35 ans, donc c'était pas un truc de jeunesse. Moi, j'ai jamais voulu écrire, c'est arrivé comme ça, on m'a plus ou moins forcé, donc... Et à partir de là, j'ai continué.
Je
me suis tellement amusé à le faire que j'ai
continué. Il paraît que tu étais dans le même bahut que Ben Acquista et Dantec.
Je les ai eus comme élèves.
D'accord.
Dantec, je l'ai connu, il avait 10 ans, et Ben Acquista, il avait 13-14 ans. Donc, oui, c'était des petits.
Et on percevait déjà dans leur boulot qu'ils allaient devenir des...
Ben Acquista, moins. Il voulait être écrivain, lui. Dantec, il était déjà... Quand on dit Dantec est devenu fou, c'est idiot, il l'était déjà. À 10 ans, il était déjà dans un état... et très grande culture, très grand lecteur. Il lisait Marcel Mauss en 5e. Enfin bon, c'était incroyable. Donc je m'étais intéressé à ce type. Et après, je l'ai perdu de vue après le bac. Mais je ne le perdais pas complètement de vue parce qu'il faisait de la musique. Il avait un groupe, Artefact, là, qui a duré pendant 3-4 ans. Et puis, au bout de 3-4 ans, il est venu me voir parce qu'il voulait se lancer dans l'écriture de romans. Donc, je l'ai un peu guidé.
Et pourquoi tu as choisi donc, d'écrire des polars?
Parce qu'on me l'a demandé. C'est-à-dire que moi, comme je disais, j'ai jamais voulu écrire. Je n'étais pas du tout là-dedans. Moi, je suis plutôt de famille et puis de formation plutôt... plasticien, c'était la peinture, quoi, plus qu'autre chose. Et puis là, on m'a demandé, pour des raisons inavouables, c'est-à-dire, c'est pour rembourser du fric à un pote, et ce pote, le hasard fait qu'il était directeur de collection, il était dans l'édition, et il s'occupait d'une édition polar. C'est un mec qui a été très important pour le polar français, enfin, ce qu'on appelait le néo-polar à l'époque. C'est Patrick Mosconi qui a découvert Reynal, Jonquet, plein de gens comme ça. Donc il m'avait demandé d'écrire un polar, simplement pour que je puisse le rembourser. Et en me prévenant à l'avance que si jamais c'était nul, j'avais écrit pour rien, et deux, je lui devais toujours du pognon. Et puis il a pris mon bouquin, puis le deuxième, il l'a amené à la série noire, parce que... Il était viré d'Alma Michel. Il arrêtait, et donc ça a recommencé comme ça, quoi. Parce que sinon, j'aurais jamais osé envoyer un manuscrit. D'abord, je l'aurais jamais écrit, et puis j'aurais jamais osé envoyer un manuscrit à la série noire, qui pour moi était une espèce de cénacle divin. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, c'est un peu hasard. S'il avait dirigé une collection de romans d'amour. Je serais peut-être lancé là-dedans, je ne sais pas, pas longtemps à mon avis, mais enfin bon. Le roman noir, c'est... Comme je connaissais un peu quand même, donc j'avais quand même des idées là-dessus, et puis ça correspond plus à ce que j'aime, à ma formation et à ma manière de penser, quoi.
D'ailleurs, tu dis que tu connais un peu le polar. J'ai lu dans une interview que t'aimais bien Paul Féval, par exemple, qui a fait Le Bossu pour nos auditrices.
Oui, ça, c'est le roman populaire, oui. Moi, je suis un fanatique du roman populaire. Je trouve que c'est un peu dommage qu'il ait disparu, quoique. Mais il est disparu dans la manière où il existait, c'est-à-dire surtout le feuilleton. J'ai toujours adoré ça, et on peut dire qu'une certaine partie des auteurs aimerait bien aussi faire du feuilleton et du roman populaire. D'abord pour deux raisons. D'abord parce qu'on est payé à la page, ce qui permettrait quand même à pas mal d'auteurs de vivre, alors que maintenant c'est pratiquement pas possible. Et puis c'est une gageure, dans le sens où il faut une inventivité de tous les instants pour tenir en haleine un lecteur sur des années. Parce que Paul Féval, Les Habits Noirs, ça a duré je ne sais pas combien de temps dans les journaux. Ça dépend de comment c'est publié. Mais moi, on a essayé, plus ou moins, avec des copains aussi, de remettre à jour le feuilleton. Ça ne marche pas.
Et puis chez Paul Féval, il y avait aussi le côté écrit qui réveille les consciences aussi. Il y avait aussi ça chez Paul Féval.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus facile pour eux, dans le sens où, en même temps, il y avait le roman dit réaliste ou naturaliste, c'est-à-dire Zola ou Maxence Vandermeer, des gens comme ça, qui, eux, faisaient œuvre de sérieux, de réalisme, de confrontation avec le réel. Et en même temps, il y avait les feuilletonistes qui pouvaient partir dans l'imagination. Mais souvent, ils se rejoignaient sur beaucoup de thèmes. Alors maintenant, il n'y a plus Zola, il n'y a plus le roman réaliste, donc c'est le roman noir qui a remplacé ça. Mais alors, comme le roman noir a remplacé le réalisme, personne n'a remplacé le feuilleton, quoi. Le feuilleton a été remplacé plutôt par la télé, quoi. Bon. Et malheureusement, à la télé, il n'y a pas de bon feuilleton, de vrai feuilleton. Il y en avait avant, mais bon. Imagine que Belphégor dure pendant 2 ans, ça aurait été incroyable, quoi. Mais c'est un trop, trop gros boulot, ça coûte trop cher. Alors que les feuilletons dans la presse, ça coûte rien. Il suffit d'avoir un auteur suffisamment habile pour pouvoir continuer, quoi. Et là, on fédère et on fidélise plutôt beaucoup de lecteurs, quoi.
Et je passe un peu du coq à l'âne, mais tu parlais tout à l'heure aussi du néo-polar. Est-ce que toi, tu te sens une filiation, par exemple, avec des auteurs un peu oubliés, comme Pierre Signac, ou bien aussi avec des gens comme Jean-Patrick Manchette, des choses comme ça?
Signac,
ou
non. Manchette, oui. C'est pas une histoire de goût, c'est que Signac, il a un monde à lui extrêmement particulier. Effectivement, lui, il a tapé un peu du côté du roman populaire, mais du roman populaire... je sais pas comment dire, un peu à la française, un peu souvent drôle, souvent... enfin, c'est un mélange de plein de choses, mais il a vraiment un monde complètement à lui, qu'on peut pas vraiment... Manchette, en revanche, c'est celui qui a adapté vraiment au roman noir français, qui a donné une espèce de qu'on pourrait dire pas de légitimité, mais de... le roman noir français n'était plus sur les brisés, les Américains, ainsi de suite, bien que Manchette soit très fanatique de la littérature américaine, mais il a réussi à le coller au domaine français. Donc il a fait beaucoup de bien à cause de ça. Et puis, c'est surtout 68, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a eu une révolution au moins culturelle, si on ne veut pas parler du reste, au moins culturel, qui, c'est, dans le polar, c'est singularisé autour de Manchette. Et il a fallu que ça soit digéré longtemps par les auteurs, parce qu'entre le moment où Manchette arrête d'écrire et où le moment où apparaît le néo-polar, il y a quand même 5-6 ans. Hein, ça ne se fait pas dans la foulée. Et les gens comme Fajardi et compagnie, qui sont les tenants du néo-polar, sont arrivés quand même un peu après. Après avoir bien digéré les leçons de Manchette. Il n'y avait pas que Manchette, il y avait Meckert, Jean Amila, qui avait maintenu la pression également. Enfin, il y a quelques petits auteurs. Vautrin, tout ça. Enfin, Vautrin, c'est plus stylistique qu'autre chose. Mais bon, c'est vrai qu'avec Deninx et toute notre école, nous, on est arrivés en 84-85. Là, il y avait pas mal de gens qui avaient été dans le néo-polar avant, bien sûr, comme Jonquet, Reynal, et qui tout d'un coup ont formé ce qu'on a appelé l'école française du polar. Quoi. Parce qu'on est tous arrivés en même temps, pratiquement.
D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure un peu des difficultés aujourd'hui pour les auteurs. Deninck s'en parlait dans une interview qu'il avait accordée à Télérama. Il disait que s'il était si prolifique, c'était aussi parce qu'il avait besoin de gagner de l'argent.
Ben oui.
Et je me posais la question, parce que toi, tu es très prolifique aussi.
Oui, mais on va pas rentrer dans des calculs savants, mais c'est vrai que, en plus, nous, on a des présupposés. On adore la littérature populaire, donc le livre de poche, donc la littérature pas chère, ainsi de suite. Donc c'est vrai que on gagne moins sur chaque livre, et que, comme on est nombreux, le public est toujours fidèle, le même, mais enfin, il grossit pas forcément. Donc il faut se partager tout ça, et c'est vrai que il faut écrire beaucoup pour gagner un tout petit peu sa vie, parce que bon, j'ai jamais gagné beaucoup d'argent avec mes bouquins. Donc, mais c'est vrai que quand tu... Bah, c'est qu'on a 5% du prix de vente du bouquin. Si le bouquin se vend 6 euros, si t'en vends 3, c'est pas la peine, tu peux même pas t'acheter un carambar. Quoi. Alors, bon, tout ça. Maintenant, ça a changé parce qu'il y a de moins en moins de livres de poche, en format poche, disons, et que les hardcovers, comme on dit, qui coûtent 20 euros, après sortent en poche, mais d'abord sortent en... Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas vendre des bouquins à 20 euros, je vois pas pourquoi, donc ça se calme un peu de ce côté-là aussi.
D'ailleurs, tu avais un peu fondé la suite noire en réaction, un peu parce que la série noire, elle a changé, c'est devenu du gros bouquin. D'ailleurs, il n'y a plus aussi ce côté bel objet qu'avaient les livres de série noire.
Oui, et puis la série noire, quand même, c'était un format poche, elle n'était pas chère. Alors, il y a eu des tas de... On peut lui faire des tas de reproches, mais il y en avait beaucoup. C'était quand même... c'est une littérature qui se répandait, puis tout d'un coup... Ils ont arrêté parce que Folio policier a ramassé la donne, c'est-à-dire vraiment là du livre de poche, de la réédition. Il n'y a pratiquement pas d'inédits, alors que la série noire proposait pratiquement que des inédits.
Et toi, tu as une particularité aussi, c'est... on va parler un peu de ton écriture et tout ça, mais c'est les titres. T'as toujours, on parlait tout à l'heure quand on a présenté le film La petite écuyère à cafeter, le premier poulpe, t'as toujours une particularité, c'est toujours des titres délirants, des jeux de mots, d'où ça devient ça?
Moi je sais pas, j'aime bien moi. C'est, n'importe comment, je travaille beaucoup sur cette matière un peu que les intellos appellent oulipienne, que nous on appelle un peu autrement, mais qui sont le travail sur le mot. L'humour, évidemment, du mot, donc les jeux de mots, donc tout ça. À condition que ça soit en accord avec ce qui suit, avec le texte. Il n'est pas question de promouvoir un texte très très sérieux, ou un texte très très militant, ou très très dur, comme ça, avec un titre à la con. Mais moi, comme je suis plutôt provocateur, et comme... je manie plutôt un peu le grotesque et l'humour. Là, ça va très bien, je peux proposer des titres à la con. Et puis, j'adore les jeux de mots lamentables, ça je peux pas m'en défaire. On change pas, c'est une nature. On peut pas changer ça.
Et tu parlais justement à l'instant, tu parlais d'effectivement les intellos disent que tu es adepte de l'oulipo. Est-ce que tu peux définir un peu, on dit que tu fais de l'écriture à contrainte, des choses comme ça
L'oulipo, c'est une bande, c'est presque une secte. Hein, maintenant. Moi, je fais pas partie de l'oulipo à cause de ça, mais je suis un compagnon de route. Hein. L'oulipo a été fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, et pour justement jouer avec... le mot, la lettre, la phrase, la littérature, tout ça, d'une manière un peu... D'un côté, ça c'est le côté Queneau, d'une manière un peu marrante, enfin bon, faire des... et mettre des contraintes qui sont plutôt drôles, et du côté des Lyonnais, des contraintes mathématiques. Alors moi, les maths, j'y comprends rien, enfin bon, c'est pas du tout ma partie, donc je suis que du côté Queneau, quoi. Mais bon, ça peut être Pérec, par exemple, qui était aussi du côté Queneau, et aussi un de mes auteurs préférés à cause de ça, parce qu'il se met des contraintes inouïes, et moi j'adore ça. Donc pareil, on peut tout mélanger, faire tout avec tout, et c'est pour ça que je dis que je suis un compagnon de route, disons, deux, il pouvait pas autre chose.
Et concrètement, quel type de contrainte tu peux te mettre, par exemple, dans un livre, par exemple, dans Samedi 14, par exemple, le dernier
Oh ben là, il y en a pratiquement pas, sauf que la contrainte, c'était déjà d'écrire un bouquin dans une collection qui s'appelle Vendredi 13. Donc moi, immédiatement, j'ai fait Samedi 14, parce que, par pur esprit de contradiction, d'ailleurs. Et donc là, la contrainte était surtout une contrainte de thème et de sujet. Mais il y a quelquefois des contraintes douces. J'écris un bouquin, par exemple, tous les chapitres, bon, 26 chapitres, le premier chapitre commence par A, se termine par A, et ainsi de suite. Bon. Mais des fois, il y a des contraintes très très dures qui ne se voient pas obligatoirement. Alors, pour donner un exemple, par exemple, je fais souvent pour un chapitre, avant d'écrire un chapitre, je délimite un nombre au hasard comme ça. Puis j'écris le chapitre et après je retravaille un peu le chapitre pour tomber sur ce nombre-là d'une manière homophonique. C'est-à-dire si j'écris il but un verre de vin, il but un verre de vin, ça fait 23. Il but un verre de vin. 1 plus 2 plus 20, ça fait 23. Donc, mais après, il y a des tas de mots qui, par homophonie, rejoignent les chiffres. Donc, à la fin, il faut que je parvienne au nombre que j'avais décidé avant. Ça, ça se voit pas. C'est juste un jeu que... Ça, c'est compliqué, mais c'est un jeu que je me donne, moi, pour garder un plaisir d'écriture. Et c'est vrai que respecter une contrainte, c'est souvent un plaisir. Un plaisir des fois douloureux, mais c'est un vrai plaisir d'écriture. Quoi. On n'y va pas comme ça pour rien. On cadre ça avec une contrainte. Mais sinon, il y a des tas de contraintes. Il y a les contraintes liées aux références, il y a les contraintes liées au temps d'élocution, il y a les contraintes liées au sujet. J'ai fait beaucoup de livres où ça commence au « il ». Chaque chapitre commence par « il » et se termine par « je ». Il ne faut pas voir à quel moment ça passe du vide au jeu, bon, des choses comme ça. Donc, mais ça, c'est une manière de toujours s'amuser un peu avec le texte et pour garder un peu ce plaisir d'écrire, parce que sinon, si on s'emmerde, on emmerde le lecteur. Donc, moi, je suis persuadé de ça. Donc, j'essaie de... Et puis, je sais pas, il y a des aussi... je commets des erreurs volontaires, des choses comme ça. Bon, par exemple, dans La Belle de Fontenay... qui est l'histoire où le personnage principal est un sourd-muet, à un moment donné, il entend une mobilette démarrer. Bon, tout ça, c'est pour voir, c'est pas pour voir si les lecteurs lisent bien, mais c'est un jeu, et puis un jeu qui me retombe sur la gueule souvent, parce que, ah, t'as écrit ça, là, c'est une faute. Bon. Mais tout ça, c'est aussi pour que l'écriture soit un jeu, quand même, un plaisir, toujours, un jeu.
Et d'ailleurs, tu t'étais bien amusé avec sur La Vie du Rail avec Daniel Pénac et Patrick Reynal.
Oui, alors ça, c'est il y a très très longtemps. Ce bouquin n'aurait jamais dû être publié parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais on s'est tellement marré à le faire parce qu'on était copains à l'époque, tous les trois, et on avait décidé de faire ça. C'était un roman tournant, hein, c'est-à-dire chacun passait sa copie à l'autre. Et on se voyait assez souvent, on habitait à Paris ensemble. Et Reynal était à Nice encore. Mais on faisait souvent, et quand on se voyait, on n'avait pas le droit d'en parler. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un faisait un chapitre, il pouvait en revanche écrire une lettre d'accompagnement en disant « Attention, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et Pénac, il était fou furieux parce qu'il avait inventé un personnage, le dégriffé, et il trouvait qu'on ne le traitait pas bien. On faisait un peu esprit aussi, hein, évidemment. Et donc, il nous engueulait à chaque fois « Ouais, je vous interdis de prendre ce... » À un moment donné, on l'a tué parce qu'on avait ras-le-bol avec Reynal. Et là, ça l'a rendu fou. Donc, il nous a mis 8 morts d'un coup. Donc, il y a une espèce aussi de jeu comme ça, mais qui était... les règles étaient assez, assez sévères. Et en fait, sauf qu'à la fin, ils en ont eu marre, tous les deux. Et ils m'ont chargé d'écrire la fin, alors que personne ne savait ce que ça pouvait être. Quoi. Et là aussi, c'était un bon exercice dans le sens comment faire avec... un gros tas de bouse pour essayer de le faire tenir debout, quoi.
pour en revenir un peu aussi au poulpe, c'est pas un hasard s'il est né en 1995, le poulpe.
Ah non, 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 non. C'est justement 95, les grandes grèves, tout ça, des dissolutions, Juppé. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé, parce qu'il est toujours là, Juppé. Et non, et on se disait, tiens, c'est bizarre quand même que dans la littérature dite de gare, c'est-à-dire la littérature vraiment de très grande consommation, il n'y ait pas de personnage qui soit... qui représente un peu la gauche ou l'extrême gauche. Il y avait eu des petits essais, notamment le commandeur, là, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, qui avait écrit ça. Mais enfin, c'était pas. Ou Klotz aussi, qui avait fait un héros, mais alors, c'était un héros qui était très. Il roulait en Ferrari, les gonzesses, tout ça, les grands hôtels. Ça ressemblait pas à ce qu'on aimait. Donc, on avait décidé de faire un personnage d'extrême gauche. Pour au moins qu'il puisse exister et pour régler les histoires, c'était la montée du Front National, tout ça à l'époque. Donc. Simplement, avec tous les auteurs de Polar, il n'y en a pas un qui est pareil à l'autre. Il y a trois maoïstes qui se détestent, dix trotskistes de dix fractions différentes, tout ça. Donc, c'était assez compliqué. Et c'est pour ça que quand j'ai créé, j'ai dit simplement qu'il était libertaire. Et apparemment, ça a plu à tout le monde. J'ai pas dit qu'il était anarchiste, parce que là, c'est toujours un peu tangent, mais libertaire. Et là, tout le monde, personne n'a rien dit, tout le monde a plongé dedans, aussi bien les Mao que les Trotsko, que les communistes, que tout ça. Donc, même quelques staliniens purs et durs. Tout. Donc, et on pensait en faire 10, et il y en a eu 200, quoi. C'est ça le problème, il est là, quoi.
Non, justement, c'est incroyable quand même que ce personnage du poulpe, bon, tu disais effectivement, tout le monde a écrit Donax, nazi dans le métro, tout ça et tout. Enfin, il y a eu effectivement tous les courants politiques un peu de la gauche, c'était le front de gauche avant le front de gauche, qui se sont un peu retrouvés à écrire le poulpe. Et justement, c'est assez rigolo, parce que je sais pas comment tu l'as perçu, le fait que le poulpe devienne un personnage aussi récurrent, important dans la littérature populaire. En France.
Mais je sais pas, ça nous a un peu dépassé. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le personnage existait vraiment, tel qu'on l'a construit, mais n'existait pas non plus. C'est-à-dire, ce qu'on dit du poulpe, pour que tout le monde raconte à peu près la même chose, enfin, que le personnage se ressemble d'un livre à l'autre, c'est très succinct. Enfin, il y a assez peu de choses. Alors donc, les auteurs ont pensé. Et ils mettent beaucoup d'eux-mêmes. Donc c'est un personnage qui était une enveloppe assez facile à gérer. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ont écrit des poulpes sur les 200 qui m'ont dit, moi je veux rien écrire d'autre, hein. Moi je veux faire ça, c'est tout, je veux pas faire la littérature. Donc, mais c'est bien pour moi de faire d'écrire un poulpe. Et il y en a d'autres... c'était important pour eux qu'ils le fassent pour rentrer aussi dans une espèce de bande. Parce qu'à un moment donné, il y en avait tellement que ceux qui n'en faisaient pas, ils avaient l'air un peu cons, quoi. Donc, alors tout ça fait que ça s'est accumulé. Et puis moi, très vite, j'ai ouvert, dans le sens où on a fait des poupes dans les écoles, dans les prisons, dans des comités d'entreprise. Et je demandais à des gens qui n'avaient jamais écrit d'en faire un, parce que le personnage est là, ils n'ont pas à l'imaginer... Ils rentrent dans une bande et puis ils racontent une histoire à eux, qu'ils ont vécu ou pas. Donc il y avait plein de choses et ça a plu, ça a marché. C'est des bouquins simples. Je faisais attention à l'écriture, mais bon, de temps en temps, tu veux plus, tu vois, parce que tu te dis, j'ai pas. Et je voulais pas refuser les bouquins non plus. Enfin, il y avait ce côté-là, quoi. Ça a été un atelier d'écriture géant, voilà.
De quelque sorte, c'est presque une mission d'éducation populaire, le poulpe, après.
Ah ben, ça l'est devenu. Moi, au début, je voulais pas trop ça. Enfin, j'avais pas pensé ça comme ça, mais très très vite, oui, ça m'est apparu que ça serait la seule collection qui serait comme ça. J'ai été accusé de tuer la littérature, parce que d'éditer des bouquins qui ne pourraient jamais, qui n'auraient pas dû être édités, ou qui n'auraient jamais été édités ailleurs, ça. Donc, ça m'amusait, alors, de se faire accuser de ce genre de truc. Et puis surtout, on a fait peur, un peu, bon, parce qu'on a été victime d'une vengeance générale de l'édition, une OPA sur nous. Ils ont tué Baleine, Le Seuil après racheté à étouffer. Et heureusement, au seuil, il y avait quelqu'un, Platé, là, qui a décidé de sauver le poulpe. Donc, c'est délégué du personnel. Donc, il faisait tellement chier tout le monde que il a dit, moi, je m'en vais, si vous voulez. Ah oui, 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 monsieur Platé, oui. Je démissionne, mais je veux le poulpe avec moi. Donc, il s'est barré avec le poulpe, la collection, les contrats et tout. Et comme ça, il peut continuer. Et donc, c'est une histoire... C'est vrai que c'est une histoire un peu... qui n'est pas banale, qui tranche un peu sur le reste. Ouais.
Et puis qui a terminé par un film, quand même. C'est ça qui est assez incroyable.
Il y a eu un film, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu un peu de tout. Il y a des pierres, il y a des restos. Enfin, on est un peu dépassé. Et il va y avoir bientôt un deuxième film. Ouais.
Et pour revenir justement, bah, comment ça se passe, la rencontre avec Guillaume Niclou? Parce que justement, il écrivait des polars aussi, qui ont été publiés justement à La Baleine aussi. Quoi.
Ben, Guillaume Niclou, j'avais connu il y a assez longtemps parce qu'il voulait adapter un de mes livres, ça n'a pas marché. Après, il a fait quelques films un peu underground, disons, pour Arte. Et puis, Charles Gassot l'a appelé pour faire ça. Entre-temps, j'en avais fait écrire un, Poulpe, et puis il avait tellement... aimé le faire qu'il a écrit après deux ou trois bouquins, dont un, Zoo City, qui est assez monstrueux, comme il faut bien le dire. Maintenant, il écrit plus qu'on lâche. Et donc, quand Charles Gassot l'a appelé, il m'y a pas contacté, il m'a proposé de faire le scénario avec lui.
Vous êtes retrouvé après, parce que...
Ah oui,
Holiday, entre autres, que j'adore.
C'est un pote, je le vois souvent. Moi, j'aime pas trop écrire les scénarios, donc... Mais le scénario de Holiday, par exemple, on l'avait fait juste après le Poulpe, ça date d'il y a assez longtemps, parce qu'on avait un mois devant nous, et... c'est pas qu'on voulait pas se quitter, mais on avait une ambiance de travail, comme ça, ça roulait, donc... Holiday, on l'a créé à toute vitesse, puis il voulait écrire une connerie, donc on a écrit une connerie, c'est qu'à le dire.
Le nain libidineux, c'est ta création? Le personnage de nain dans Holiday.
Ah, il aime les nains, lui.
Ah ouais?
Il aime les nains. Il n'y en aura pas dans le deuxième Poulpe, malheureusement, quoique. Mais oui, il y en a un dans le Poulpe, très important, et puis il y en a un également dans Holiday. Oui, je sais pas, ça c'est son imaginaire. Il est un peu bizarre comme jeune homme, il faut bien le dire.
On a parlé du Poulpe, mais tu as aussi créé d'autres personnages... Où tu as eu d'autres idées. Moi, il y a un truc qui me fait mourir de rire, c'est la série grise.
Oui.
Avec
oui.
Des gros caractères pour les 72 à 83 ans.
Oui, c'est parce que moi, j'ai jamais écrit pour la jeunesse, pour plein de raisons. Mais parce que je supporte pas les tranches d'âge. Alors, quand je vois de 8 à 13 ou de 7 à 14 ans, moi, je me dis, attends, moi, je disais, comment on faisait avant l'île au trésor, tout ça, on le disait, on ne sait pas pour qui c'était. Bon. Donc. Donc on avait fait, pour se moquer, on avait fait une collection pour les vieux, donc qui s'appelait Série Grise, où là, chacun choisissait sa tranche d'âge, alors de 75 à 84, ou, pour rigoler, comme ça. Et ça avait bien marché, mais bon, Baleine s'est arrêté au moment où ça commençait à rouler un peu.
Il y avait eu Tête de Gondole aussi.
Il y a eu Pierre de Gondole, il y a eu également, on avait essayé de faire des romans d'amour modernes. C'était la série Velours. Mais il y a quand même des gens assez bizarres qui ont commencé là. Gérard Rall, par exemple, qui est un bon auteur breton, son premier bouquin, c'est un velours. Il y avait Tourisme et Polar aussi, où vous essayez de faire des petits bouts. Enfin, bref, j'ai ruiné l'éditeur, quoi. Enfin, avec toutes ces conneries qu'on faisait. Tous les deux mois, il y avait une nouvelle collection. Mais c'est vrai que cet éditeur, Antoine de Carverso, dès que je disais quelque chose, il disait oui. Alors au bout d'un moment, c'est très emmerdant parce que il faut bien savoir ce qu'on lui propose, quoi. Bon, mais ça a été une époque là, pendant 6 ou 7 ans formidable, quoi. De 95 à 2001 à peu près.
Et justement, on parle un peu de ça. Quel est un peu ton point de vue, toi, sur l'édition aujourd'hui en France, en particulier peut-être plus dans le polar, quoi.
Oh ben moi, je regrette la disparition de la série noire, bien évidemment. Parce que, par exemple, une maison comme Rivage continue. C'est-à-dire, ils font des hardcovers, ils font des bouquins chics et chers, mais il y a aussi leur petite collection, pas très très chère, avec des inédits. Traduction de l'étranger, surtout, mais avec des inédits. Donc, je vois pourquoi Gallimard n'aurait pas continué. Bon. Donc ça, c'est une perte. Surtout qu'elle, quand même, elle datait de 1945, donc... On supprime pas une collection comme ça sous prétexte que Folio marche bien ou pour garder les droits, ils ont fait. Enfin bref. Sinon, ben, y a vu le succès quand même, au moins médiatique, de la littérature policière, du polar, enfin, moi j'écris pas de policier, mais de ce qu'on appelle le polar, il y a de plus en plus de maisons d'édition, donc de plus en plus de livres. Donc, si on considère que le lectorat est à peu près le même, il change, hein, il rajeunit, ainsi de suite, mais il n'y a pas plus de lecteurs de polar qu'il y a 10 ans. Il y a à peu près toujours les mêmes. On a réussi à maintenir ce lectorat d'une manière très forte, mais il y a moins de lecteurs par livre, quoi, ça c'est sûr.
Et tu avais créé, on a un peu abordé tout à l'heure, la suite noire aussi.
Oui, ça c'est une réaction à la disparition de la série noire. Je travaillais pour un producteur de cinéma, là, je l'aidais à retaper les scénarios, enfin bref. C'est pas très, très réjouissant, mais à chaque fois que je rentrais dans son bureau pour discuter d'un scénar, il raccrochait violemment son téléphone en disant « Putain !» en hurlant. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Putain, je viens de perdre 20 000 euros, c'est un coup d'enculé !» Et je disais « Bah attends, avec 20 000 euros, on monte une collection quand tu veux. » Et au bout de 5 ou 6 fois, un jour, il m'a dit « D'accord, allez, on y va !» Et donc, on a monté Suite Noire comme ça. Et puis, lui, comme c'est un producteur de films et de cinéma, il avait l'idée de que ce soit des trucs adaptables. On a réussi à en adapter. Il y en avait 12 achetés. On a réussi à en tourner 8 quand même. Il y a eu un petit succès d'estime et tout. Bon, ce qui l'a remis à flot. Et puis là, on continue un peu. Enfin, il essaie de continuer. Moi,
C'était vachement bien. Moi, je me rappelle tirer sur le caviste, par exemple, c'est excellent avec l'île Sarastrup.
Surtout que c'est moi qui fais le caviste. Ouais.
Oui, bah oui.
Une balle dans la tête. Oui, non, il y avait des très, 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 très beaux téléfilms. Mais ça a fait peur. France 2 a arrêté. Ouais.
D'accord. C'est France 2 qui a arrêté parce que, c'est effectivement, le succès était au rendez-vous quand même.
Oui, il en manque 5 qui devaient être tournés, qui n'ont pas été tournés. 4 ou 5. Dont le mien, d'ailleurs. Toujours pareil. Mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur de cette espèce de dureté, de violence. Et il y en avait un avec le cinéaste qui est mort, là. Raoul Ruiz avait fait un scénario extraordinaire, d'après Tito Topin. Pourtant, moi, je n'y croyais pas, parce que Tito Topin, ce n'est pas vraiment le monde de Ruiz. Mais il avait fait un scénario merveilleux. Et juste après, quoi.
Ça aurait pu donner quelque chose d'assez extraordinaire.
Ah oui, il y en avait 4.
Quand on voit comment il a dynamité en plus les formats télévisuels, par exemple avec les Mystères de Lisbonne.
Oui, bah, c'est ça. Et là, il jouait vraiment avec, et c'était simple en même temps, c'était pas du tout un truc complexe, mais intelligent, quoi. Bon, alors, on était vachement contents. Et puis la collection France 2 a arrêté, et puis 4 mois après, il est mort. Ouais.
Alors c'est marrant parce que donc toi tu t'es retrouvé à travailler pour la télé alors que toi tu dis souvent en interview que la télé...
Non, moi je m'en fous. Ouais. C'est-à-dire je travaille parce que j'ai fait des études en rapport avec ça. C'est-à-dire que j'ai fait quand même beaucoup d'études de cinéma du côté littéraire, hein, pas du tout du côté ni technique, ni mise en scène, tout ça, mais vraiment du côté plutôt histoire, critique, tout ça. Et donc j'avais développé avec un copain... Des espèces d'approches sémiologiques un peu du scénario. Donc je m'y connais un peu en construction, quoi, disons, c'est pour dire ça rapidement et clairement. Donc j'ai beaucoup travaillé comme script doctor, comme disent. Je préfère dire docteur, moi, ou ostéopathe de scénario. C'est pour ça que j'ai fait des conneries absolument lamentables. J'ai travaillé sur des conneries lamentables, mais c'est très marrant. Et surtout que tu dis, c'est là où tu dis à des metteurs en scène, si vraiment vous voulez que ça soit con, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Il bon, y a ce côté-là. Alors ça, j'en ai fait pas mal. Maintenant, j'en fais moins, parce que bon, c'est un peu pénible. Mais c'est aussi une manière de vivre, parce que l'économie de la télé et du cinéma n'a rien à voir avec celle du livre, quoi. Si tu fais un scénario, par exemple, c'est l'équivalent au paiement de 15 livres. Donc, y a beaucoup d'auteurs de polars qui ont disparu à cause de ça, qui ont été faire de la télé et quelquefois du cinéma.
D'ailleurs, dans les films sur lesquels tu as bossé, il y a un truc atypique qu'on n'aurait pas forcément rattaché à ton univers, c'est Renaissance, par exemple, le film d'animation. Là.
Oui, là, ça, pareil, c'est un boulot de script de docteur, dans le sens où les scénaristes, là, la Patelière, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ils avaient 80 pages de scénar où tu comprenais que dalle. Enfin, donc, qui était intéressant, hein, là, il y avait des choses intéressantes. Donc nous, avec Rénal, on l'a, je ne dirais pas normé, mais on a quand même... rapprocher les motifs, faire en sorte qu'ils soient reconnaissables, trouver deux ou trois trucs, mais c'est vraiment un boulot de script doctoring. C'est-à-dire, c'est comme si c'est comme si Proust nous filait son œuvre en disant bon, alors écoutez, il faut en faire qu'un livre, quoi. Faut en faire que bon. Ou comment faire ? Moi, je suis incapable de le faire. Est-ce que vous pouvez le faire à ma place ? Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont un imaginaire, qui ont une puissance comme ça, stylistique, mais qui ne se rendent pas compte du fait qu'il y a des spectateurs, qu'il y a des faisabilités de films, qu'il y a des choses comme ça. Donc ça, moi je m'y connais, alors je l'ai fait souvent, oui.
Tu aurais pu faire ce docteur pour les derniers Dantec, par exemple.
Oui, mais là, non. Non, puis il a dû s'en occuper. Ouais, mais Non, mais par exemple, tu cites Renaissance, ça reste encore un peu dans notre univers, mais j'ai été script docteur sur le Chevalier Bayard, là. Sans peur et sans reproche, Junio. Tiens, alors là, ça fait peur, parce que là, c'est très très loin de mon univers et tout. Mais je dois dire que je me suis bien marré, alors à le faire, parce qu'il comprenait rien, donc... C'est assez drôle. Les keufs aussi, pareil, pour Balasco.
C'est ton premier boulot, d'ailleurs, je crois, pour le cinéma, les keufs. En tout cas, dans ta filmographie, ça apparaît 87, je crois, un truc comme ça.
Ouais, je crois que c'est le premier, ouais. Je sais plus, je pense. Ouais. Mais pour le Junio, j'étais conseiller historique. Donc, tu vois, tu démarres conseiller historique, et à la fin, ils m'ont crédité au scénario en me disant « Ah, JB, t'as bien travaillé, on va te faire plaisir. » Et là, tu veux pas dire « Non, 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 pitié, non, pas le scénario, laissez-moi conseiller » ou un truc comme ça, quoi. Mais, non, c'est pas grave, je m'en fiche. Je me suis bien amusé, donc...
C'est vrai que le film n'est pas une super réussite.
Non, ça peut pas dire que... Mais tu sais, quand t'es tout seul face à 5 ou 6 personnes... Tu arrives à avoir raison de temps en temps, mais de temps en temps, non.
Oui, évidemment.
J'ai longtemps travaillé à Radio Nova, par exemple. Mmh. Parce que j'étais un vieux copain de Bizot, c'est ma génération. Donc, j'ai remplacé Jamel. C'est pas rien comme ça. Et pour remplacer Jamel, alors que tous les invités étaient déjà choisis, hein, j'avais simplement à mener l'émission, j'avais deux aides. Parce que bon, à Nova, de 5 à 6, là, il fallait que ce soit extrêmement agité. Et j'avais... Deux aides, deux petits jeunes qui commençaient, qui n'étaient pas connus. Il y avait Youn, Miguel Youn, Et Fred Testo, là,
le comédien.
Là, et bon, que je ne connaissais pas, qui m'ont mis un merlier dans l'émission et tout, c'était vraiment incroyable. Et ils commençaient, c'est la première fois qu'ils faisaient un truc officiel. Donc tout ça, ça fait des rencontres. Après, j'ai fait l'émission matinale de Nova pendant un an, avec Yannick et Mélusine. Puis bon, après, bon, faut autre chose. Hein. Faut pas non plus. C'est bien quand c'est des groupes, quand c'est des espèces d'entités qu'on dit, moi je vais faire une émission, si ça, non, ça marche pas. Et se gérer, se greffer sur un autre groupe complètement. Moi, bon, Yannick et Mélusine qui faisait la matinale, c'était pas du tout mon monde. Lui, il travaille maintenant à Tétu et elle. À Jalouse, je crois, bon. Mais c'était des jeunes extrêmement marrants. Et donc, moi, j'étais à faire des feuilletons, des trucs complètement fous. Je faisais, comme Baraton fait à France Inter, je faisais une critique horticole. Imagine un peu, bon. Bref, donc, tout ça, on s'amusait. Et dès qu'on s'amuse, et en plus, on était payé pour ça. C'est-à-dire que Viso, il était vachement sérieux. C'est un mec. Pas question de travailler à l'œil. Alors, c'était payé souvent au lance-pierre, mais c'était pas du tout. C'est une radio libre, mais quand même, il arrivait à nous payer. À France Culture, là, c'est autre chose. Là, c'est un monument, là. Oui, là, il faut pas déconner, faut pas dire un gros mot, faut pas tousser, faut rien faire. Mais en même temps, c'est des jeux littéraires assez pointus, donc ça entraîne.
Mais sur France Culture, je te verrais bien dans Mauvais Genre, par exemple.
Oui, mais Mauvais Genre, c'est une émission de journaliste, c'est-à-dire qu'il y a une émission critique. Mmh. Oh, j'aime pas trop critiquer, moi, mais. Enfin, critiquer, c'est-à-dire.
Oh, pour des coups de cœur, hein, je parle plutôt. Enfin, bon,
Oui, mais ça, j'en ai fait. Pas pour lui, parce qu'en geôlier, je me suis frité avec lui très vite, donc au début, parce qu'il appelait ça Mauvais Genre, et moi je disais non, c'est pas Mauvais Genre, c'est un bon genre. Si tu continues à appeler ça Mauvais Genre, ça sera toujours un mauvais genre. Donc. Et puis, il y a suffisamment de gens, on ne peut pas tout faire non plus. Place aux jeunes maintenant.
Et bon, pour revenir un peu quand même à tes derniers ouvrages, on en parlait tout à l'heure hors interview, j'ai pu lire « Sous le vent », donc, qui est paru chez Lattès en fait, qui est une collaboration avec Joe G. Pinelli. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur justement comment vous avez bossé ? C'est particulier comme bouquin. On voyage de Bretagne à Nouméa. Enfin bon, c'est...
Avec Joe, qui est un type qui vient surtout de la bande dessinée, qui en a fait pas mal, Underground, qui est un Liégeois, qui est un Belge, et qui, là maintenant, s'est un peu calmé. Il fait... c'est un artiste, vraiment, il fait... Alors lui, c'est le contraire que d'habitude, il m'envoie les dessins. Et moi, il faut que j'illustre ces dessins avec un texte. Donc, deux fois, déjà pour Fratelli et pour Sous le vent, tout d'un coup, par la poste, c'est un drôle de mec, je reçois 80 photocopies de très bonne qualité de ces pastels, de ces dessins. Et alors ça, c'est la surprise, parce qu'il m'en a jamais parlé avant. Là, dans le dernier, c'est tout d'un coup, je vois une espèce d'hommage à Gauguin, les îles Marquises, la Polynésie, tout ça. Va savoir. Alors, il accompagne un petit mot, il dit, moi, j'ai pensé à ça, ça serait bien que... Mais ça, je jette tout de suite à la poubelle, parce que sinon, j'ai pas de plaisir. Et donc, j'ai accompagné ces dessins-là un peu la saga, enfin... le devenir d'un représentant en pâté breton, le Hénaf, enfin avec d'autres choses évidemment, pour faire un peu une cassure un peu avec les dessins, que ce soit pas, parce qu'en même temps il y avait des dessins sur la Polynésie et en même temps il y avait des dessins de feu, de guerre, de trucs comme ça, donc il fallait trouver une histoire qui, alors il faut que je range les dessins l'un après l'autre, dès que c'est ça un peu qui me donne un peu le cours de l'histoire. Et puis lui, après, découvre le texte avec la même, peut-être, surprise que moi quand je découvre ses dessins. Quoi. Mais sauf que c'est à l'envers. C'est pas lui qui a illustré un texte, c'est le contraire. C'est moi qui illustrais les dessins. Et là, je viens de recevoir, d'ailleurs, un colis avec plein de photos. Va savoir, alors c'est des essais qu'il a fait d'après les photos de Simenon. parce que Simon est de Liège aussi, et que Simon a fait des photos très étranges, où il y a beaucoup de petites filles dedans, enfin bon, c'est un peu bizarre. Et il m'a dit, tu te démerdes, maintenant il faut que tu trouves une histoire avec ces dessins-là. Donc je vais y réfléchir.
Et Simon était un type très étrange.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un type que j'aime bien, j'aime pas le Maigret, tout ça, ça me gonfle et tout, mais ce qu'on appelle les romans des tropiques de Simon, c'est ce que j'ai lu de plus violent comme littérature anticolonialiste, sans le montrer, hein, il le dit pas. Enfin, il dit pas qu'il fait de la littérature anticolonialiste, mais le passager clandestin, le crime de Monsieur Steele, tout ça, c'est des trucs de violence. Le blanc colon est vraiment décrit comme une horreur absolue, quoi. Donc c'est assez intéressant, parce que sinon il passe pour être un peu réac, quand même. Bon. Alors il est un peu réac. Ça épaule un peu, moi, mes idées, dans le sens où je trouve que le roman policier peut être facilement réac. Et donc là, avec Maigret, il l'est facilement. Quand il est dans ses romans noirs, il est tragique et quelquefois vraiment... Là, militant, très fortement. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est un contraste. Parce qu'effectivement, ouais. Dans Maigret, la façon dont le personnage parle des étrangers. Enfin, en même temps, le personnage, c'est pas Simenon. Enfin, bon,
il y a l'époque.
Il y a ses amitiés à lui, à Simenon aussi. Quoi.
Ouais. Mais quand on lit Les gens d'en face, par exemple, il y a un roman anti-stalinien, le premier vraiment roman populaire anti-stalinien. Enfin, quand je dis anti-stalinien, anti-staline, quoi. Qui est tout à fait étonnant quand tu vois le reste des auteurs qui commençaient à... qui ne comprenaient pas ce qui pouvait se passer. Je parle dans la vie de tous les jours. Donc il avait ce côté-là, mais sauf qu'il n'en parlait jamais. Il continuait à faire ses conneries. Quand il faisait des interviews, il disait des conneries, bref, c'était très très bizarre. C'est un personnage très très bizarre.
Et tu as aussi, publié dans tes derniers livres un livre qui s'appelle Le bar parfait. Je voudrais savoir ce que tu as contre le muscadet et le sauvignon.
J'ai rien contre le muscadet.
Imagine. Non, c'est bien. L'intro du bouquin.
Non, mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on dit qu'on est dans un pays, c'est le pays du vin, enfin un des pays du vin, du moins. Et que quand tu vas dans un bar le matin et que tu demandes un blanc, parce que le blanc c'est le matin, hein. Comme disait Prévert, le vin est un liquide rouge sauf le matin où il est blanc. Donc il te propose que du muscadet, du sauvignon. Il n'y en a pas un qui te. Dans un rad, il n'y en a pas un qui va te proposer un vin un peu différent, un Jurançon, ou un Quincy, ou un Chevrolet. Non, non, ils ont tous du muscadet. Alors, bon, muscadet, c'est bien. Alors maintenant, il y a du chardonnay, maintenant ils disent. Mais c'est du chardonnay qui vient directement du wagon. Hein. Donc, c'est pas les très bons vins. Donc, moi, je trouve que, quand même, c'est leur métier. Un bar se doit, quand même, d'abreuver ses clients et que tu les abreuves pas avec de la merde. Hein, parce que sinon, ils reviendront pas.
Justement, on s'en sert un, alors. Voilà, un petit Jurançon.
Un petit Jurançon sec.
Merci. Et donc, tu peux peut-être expliquer un peu le principe de ce bouquin qui est un peu atypique aussi, le bar parfait.
Bah, c'est un type qui cherche donc le bar parfait, c'est-à-dire le bar où on pourra, au cours de la matinée, lui proposer un bon verre de vin, bon, au lieu de la merde habituelle. Mais alors, comment faire ? Arpenter la ville, surtout qu'il l'a déjà arpenté. Donc, par hasard, il tombe sur un jeu pété de Monopoly, mais où il reste le plateau. Donc il suit le Monopoly, il commence par la rue de Belleville, ainsi de suite. Il va faire toutes les rues, au hasard, pour tomber peut-être dans une rue du Monopoly, un bar où tout d'un coup, on va lui servir un bon vin blanc. Et je raconte pas ce qui se passe après, parce qu'effectivement, à force de traîner dans les bars, on peut croiser des destins différents, disons.
Et d'ailleurs, je précise pour les auditrices et les auditeurs que le livre est publié par les éditions de l'atelier Inuit. Encore un jeu de mots magnifique. IN, plus loin, le chiffre 8, voilà.
C'est Inoctavo, on doit dire théoriquement, d'accord. Mais bon. C'est une jeune maison d'édition pyrénéenne qui fait du beau boulot. Du très très beau boulot.
Et je voulais un peu conclure, bien sûr, sur le dernier livre, moi qui m'a enchanté, hein, donc on en a un peu parlé tout à l'heure, Samedi 14. aux éditions La Branche, donc, qui raconte...
Édition La Branche, par exemple. Personne ne remarque, quand même. Édition La Branche.
C'est vrai.
J'aurais voulu appeler ça Édition Dubois, mais il n'a pas voulu, donc Édition La Branche, voilà. Il y a des blagues lamentables que...
Je n'avais même pas percuté.
Oui, donc personne ne la voit, ça m'a tellement les bêtes.
Mais le livre, par contre, moi, il m'a parlé, quoi, ce bouquin. Bon, déjà, le personnage principal, bon, pour faire vite, mais disons que c'est un ancien gauchiste qui a un passé, bon, voilà, qui est considéré, en tout cas, par l'État comme un terroriste, que nous, on pourrait trouver sympathique, par exemple.
S'agissant, oui.
Voilà, qu'on pourrait trouver, nous, sympathique.
Ah, bon. Il coupe les oreilles des grands du capital, bon. C'est un peu désagréable. C'est moins désagréable que tirer dans les genoux comme faisaient les Italiens. Ou... Enfin, il coupe une oreille, là, comme Van Gogh. C'est le collectif Van Gogh. Donc, c'est vrai qu'après, t'es marqué. Et puis, à un moment donné, ce personnage arrête. Il a 45 ans. Ou... Et stop. Et bon, ça va. Il a fait sa part de boulot. Il en a peut-être marre, on ne sait pas trop pourquoi. Et il est dans une petite maison, tranquille, de la Creuse en plus, bon, où il coule, où il pense pouvoir couler des jours heureux avec les vieux voisins à côté chez qui il va prendre l'apéro de temps en temps. Or, un vendredi 13, le fils des voisins, ce qu'il ne savait pas, est nommé ministre de l'Intérieur. Ça peut arriver. Et à partir de là, toute la zone est sécurisée autour des parents pour pas qu'il y ait problème. Donc il se retrouve avec des flics, des CRS et des gendarmes tout autour de sa petite baraque. Et ça l'énerve, quoi. Surtout qu'ils viennent lui...
Ils viennent lui piquer, enfin lui bousiller ses petits plants de cannabis. Quoi,
oui, il a deux ou trois trucs pour consommation personnelle, et les autres en profitent pour le faire chier. Quoi. Donc à partir de là, il reprend du service, sauf que ce que les autres ne savent pas, c'est que c'est un vieux routard. Il a une très très bonne pratique de la clandestinité, il sait comment se débrouiller, comment faire, et puis il a laissé des empreintes un peu partout, donc il peut s'en tirer. Donc à partir de là, il ne veut qu'une chose, c'est faire démissionner le ministre de l'Intérieur.
Voilà, ministre de l'Intérieur, d'origine polonaise, qui change de nom pour pas qu'on le reconnaisse,
oui,
un peu réac, tendance voilà, extrême droite, voilà. Ça nous rappelle un peu quelqu'un.
Voilà, c'était pour... Mais enfin, il y a une sœur très sympa, donc...
C'est vrai.
Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc, non, c'est pour pimenter un peu, mais bon, pour donner une image. Mais c'est pour rigoler que j'écris ce bouquin. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Moi, j'écris ça parce que depuis 2 ans ou 3 ans, les services secrets français, la Rondo avec ses petites notes, c'est que des... Ou alors les deux autres qui essaient, il y a plus longtemps... qui essaie de faire sauter le Rimbaud Warrior, c'est que des bras cassés, que des lamentables, et que des gens qui se tirent entre eux dans les pattes. Donc je voulais faire la même chose. Dire lutte pour le pouvoir entre des personnages qui sont un peu ridicules, quoi, il faut bien le dire.
Et bon, on va conclure l'interview, mais parler un peu de tes projets. En projet, il y a le deuxième film, Le Poulpe. La suite, déjà ?
Alors, il est fait. Alors maintenant, il faut qu'il tourne. Donc, ça, c'est... Après, c'est les arcanes du cinéma, le fric, tout ça, ça coûte cher. Mais ça se tournera, ça se passe à Guernsey, dans un paradis fiscal. Donc, on voit à peu près le sujet, bon, en gros.
Là où se termine Louise Michel de Carvernet des Lépines, d'ailleurs.
Voilà.
Et toi, as-tu d'autres projets, sinon... Enfin, je suppose, tu fourmis de projets.
Oui, mais maintenant, je commence à être un peu âgé et fatigué, donc j'y vais doucement. Bon, j'ai des trucs à faire. Mais j'ai mis un peu la paix. Place aux jeunes. Parce que je me suis aperçu le jour que j'avais écrit 100 bouquins. Enfin, il y a 100... livres avec mon nom sur la couverture, quoi, qui ont été publiés depuis 35 ans, donc je trouve que ça fait un peu beaucoup, parce que ça n'a pas changé grand-chose. Ce que ça a amené, c'est que je suis à Tourotte ce soir, bon, c'est des choses comme ça qui sont très agréables, mais je fatigue quand même un peu, mais bon, enfin, j'ai au moins 2 romans dans la tête, là, et puis il faut que je fasse 2 ou 3 trucs, là.
Bon, la conclusion, c'est place aux jeunes, quoi.
Ah, c'est place aux jeunes, parce que n'importe comment, il y a plein de jeunes vachement intéressants qui arrivent. Hein. Et puis, salaud de jeune, quand même. Non, il y en a qui sont extrêmement talentueux. Quelqu'un comme Caryl Ferret, par exemple, qui est mon pote. Mais... Alors, Caryl Ferret, je travaille avec lui à côté pour pas m'éloigner trop de lui, parce que je crois que c'est un grand.
Je pensais qu'il n'était pas français, moi, d'ailleurs, quand j'ai vu son nom, Caryl Ferret, je me dis bon.
Il est un breton.
Et c'est un breton, voilà.
Un breton pur et dur. Non, mais c'est. Je surveillais son appartement pendant qu'il était au Chili, en Argentine, pour. C'est lui, repère et tout ça. Donc. Non, c'est un. Par exemple, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Donc, voilà. L'autre jour, il y a un journaliste qui m'a dit « Mais ça ne vous gêne pas qu'on vous appelle le pape du polar ?» J'ai dit « Vous n'avez pas compris. C'est pas le pape, c'est le papy du polar. C'est pas pareil. » En fait, il avait confondu papy et pape. Alors, je suis un peu le papy. C'est-à-dire que comme je suis un des plus vieux, des plus anciens... Donc c'est vrai que je suis plus vieux que Villard, Reynal, Delinx. Et j'ai commencé tard aussi, moi, j'ai commencé aussi à cause de ça. Donc il n'y a que Mesplède qui est plus vieux que moi. Mais non, puis en même temps, j'aimerais bien refaire de la peinture un peu, moi, quand même. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait, mais...
Il faut se faire plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview.
Ben, merci à toi.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée par votre serviteur, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée par Jérôme Potier dit la Gorgone, and the last but not the least Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine! Thank you.